Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Rav Lemel, bonsoir et Shabbat Shalom. Rav Lemel, alors notre paracha cette semaine s'appelle Emor, d'hier. Et tu diras, je dirai. Et il y a une particularité qu'ont remarqué les Chachamim, c'est que dans la manière dont Dieu parle à Moïse, il dit d'abord Emor, et ensuite il dit Vea Marta Aleem. Donc ça, il dit deux fois le verbe dire. Et vous y voyez. En fait, un enseignement sur l'éducation qu'on donne à nos enfants, sur la transmission.
Oui, en effet, tout à fait. Mon cher Bernard, on a dans cette paracha cette curiosité que Rashi, bien sûr, remarque immédiatement. « Emor el ha-kohanim ben Aaron va Martha alehem le nefesh le itam abamav » Parle aux kohanim, les fils de Aaron, les descendants de Aaron, « va Martha alehem » et tu leur diras. Et après, eh bien, le texte commence par nous enseigner toutes ces lois particulières qui ont trait à l'univers des Kohanim et des prêtres dans le peuple d'Israël. Alors, ici, ce qui est très intéressant, au fond, c'est que la question qu'on peut se poser aussi, c'est pourquoi la Torah aurait-elle besoin de nous donner cette obligation de transmettre aux enfants des Kohanim, puisque Rashi sur place va nous dire, oui, en effet, lorsque le texte nous dit « Emor veut Amarta », dit « et tu leur diras », c'est le « hazir gedolim alaktanim ». Alors, littéralement, c'est pour prévenir les adultes vis-à-vis des enfants. La première lecture, évidemment, ça serait de dire, eh bien, la Torah nous dit « sache que tu dois, en effet, en tant que Kohen adulte, transmettre à tes enfants les lois particulières qui les concernent ». C'est fort bien, mais la question est la suivante. Au fond, nous savons que nous avons toutes et tous une obligation de transmission, nous avons toutes et tous une obligation d'apprendre la Torah, entre autres, à nos enfants. On le voit d'ailleurs tous les jours dans le paragraphe du Shema que l'on dit le matin et le soir, vous dites, vous les apprendrez à vos enfants afin qu'ils en parlent. Et évidemment, même si après il y a une discussion pour savoir exactement quelles sont les lois par rapport à l'éducation, mais au fond, pourquoi la Torah a-t-elle besoin de préciser ici que les Kohanim doivent faire attention de transmettre à leurs enfants leurs lois spécifiques, alors que ça devrait s'inscrire dans l'obligation globale que nous avons de transmettre à nos enfants? Et les Kohanim, évidemment, parce qu'ils sont Kohen, eh bien, transmettent aussi, en plus, leur particularité, pardonnez-moi. Alors, j'aimerais, sur la base de ça, proposer la lecture suivante. Vous savez que les Kohanim, en effet, ont des lois particulières qui les concernent. Ces lois particulières, eh bien, c'est entre autres de ne pas être en contact avec des morts. C'est aussi pour un Kohen de ne pas se marier. Alors, si c'est le Kohen Gadol, le grand prêtre, il ne peut se marier qu'avec une femme qui n'a jamais connu d'homme. Et au niveau des Kohanim, eh bien, ils ne peuvent pas, par exemple, se marier avec une femme qui aurait divorcé. Évidemment, ce sont des éléments que l'on va appeler restrictifs. Ne pas pouvoir rentrer dans un cimetière, sauf pour ses très très proches parents. Et puis aussi, au niveau de la construction d'un couple, eh bien, ça limite la possibilité de rencontre, on va dire, en tout cas avec certaines personnes avec lesquelles la Torah nous dit que l'on ne pourra pas se marier. Et il y a peut-être ici l'idée suivante. Vous savez que le Kohen, donc, c'est quelqu'un qui a une vie particulière à partir de là. Alors bien sûr, il est comme tout à chacun, mais il sait qu'il a certaines lois particulières qui le concernent. Et rappelons-nous qu'à l'époque du Temple, eh bien, il avait aussi des responsabilités particulières. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous les connaissons, puisque c'est le Kohen qui va monter en premier au Sefer Torah. Ce sont les Kohanim, les prêtres, qui vont nous bénir. Alors, on va essayer d'imaginer une situation. Vous avez un Kohen qui est là, mais on ne lui a pas appris les lois qui le concernent. Donc voilà, c'est un petit enfant juif qui est là, qui est Cohen, et il grandit comme tout le monde avec ses petits copains. Et puis, un beau jour, il apprend que son meilleur copain a perdu son arrière-grand-mère. Voilà, c'est un jeune homme, il a 15, 16, 17, 18 ans. Alors, évidemment, il a envie d'être proche de son ami qui a perdu son arrière-grand-mère et va se rendre au cimetière. Et lorsqu'il arrive là-bas au cimetière, eh bien, que va-t-il se passer? Il va réaliser qu'il ne peut pas rentrer dans le cimetière. Le rabbin va lui dire « Tu ne peux pas rentrer dans le cimetière ». Évidemment, c'est quelque chose qui risque de le choquer. Pourquoi je ne pourrais pas être là, accompagné, être proche de mon ami? Ou alors, plus que cela, il va se retrouver dans une situation dans laquelle eh bien, il va être avec une jeune fille qu'il fréquente. Et on va imaginer un cas qui peut arriver. La jeune fille, eh bien, il y a des années de cela, était mariée peut-être un ou deux mois et puis par la suite a dû divorcer. Elle ne lui en a même pas parlé. Pourquoi ? Parce qu'elle ne pense pas que c'est important de lui en parler, en tout cas pas pour l'instant. Et puis un beau jour, eh bien, cette jeune fille lui dit qu'elle est divorcée. Et là, il réalise qu'il ne pourra pas se marier avec elle. Vous êtes bien d'accord que cette situation n'est pas une situation simple ? Pourquoi ? Parce qu'il prend conscience de sa dimension de Cohen à travers ce que j'appellerais une expérience négative, à travers, même si le mot est peut-être un petit peu fort, à travers ce que j'appellerais une forme de trauma. Et évidemment, vous comprenez bien qu'il n'est pas simple à ce moment-là d'avoir envie d'être Cohen. D'ailleurs, il m'est arrivé de rencontrer certaines personnes qui, face à ce type de situation, et qui sont bouleversantes, et me disaient « Mais est-ce qu'on peut peut-être pas décider qu'on n'est plus Cohen ?» Et évidemment, c'est pas possible. Et donc, à partir de là, eh bien, les choses peuvent être difficiles à vivre et encore plus à transmettre. Et donc, c'est peut-être la raison pour laquelle, entre autres, évidemment, la Torah nous dit le Hazir Gdolim Alaktanim. Lorsque l'on est parent Cohen, eh bien, il faut bien se rappeler que l'enfant doit savoir en amont quelles sont les lois particulières qui le concernent pour ne pas découvrir sa spécificité à travers ce que j'appellerais une forme de trauma, à travers un moment difficile. Et à partir de là, évidemment, j'ai envie d'ouvrir ma réflexion sur quelque chose de beaucoup plus vaste et qui peut-être nous concerne aujourd'hui de manière beaucoup plus forte. C'est en effet la découverte que l'on peut avoir de sa singularité à travers quelque chose de difficile. Et je pense à ces nombreux jeunes juifs qui se savaient être juifs sans le savoir véritablement, pour qui c'était pas quelque chose qui véritablement avait du sens, pour de multiples raisons, et puis qui un beau jour découvrent ce que veut dire être juif, mais à travers une expérience difficile que l'on appelle aujourd'hui l'antisémitisme. Cette personne qui, en effet, eh bien, prend conscience qu'elle est juive à travers le fait qu'on la pointe du doigt en entendant des propos qui ne sont peut-être pas très sympathiques, en ayant l'impression d'être ostracisé, que sais-je. En tout état de cause, découvrir sa singularité à travers une expérience traumatique n'est jamais quelque chose d'agréable et plus que cela peut nous amener à vouloir la rejeter. Alors, bien sûr, je suis peut-être un petit peu hardi dans mon explication, mais néanmoins, j'ai envie d'exprimer la chose suivante. Vous savez qu'aujourd'hui, on a à l'intérieur de notre propre peuple certaines personnes, ça peut être en France ou aux États-Unis, qui en effet veulent se débarrasser de leur judaïsme, en tout cas mettent de côté très très fortement leur dimension juive à travers une opposition à Israël, mais au fond, qui est l'expression, je pense, d'un refus d'identité. Et on pourrait peut-être imaginer que ces personnes qui pensaient être parfaitement intégrées à la société, en faire enfin totalement partie, eh bien, lorsqu'elles découvrent qu'être juif, eh bien, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas si simple, alors dans un réflexe, eh bien, on peut être envie de se débarrasser de cela. Je ne les juge pas, évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est très simple. Rappelons-nous que le verset dit Marsaïr Homecharavaïr Mimaïr Yetseou, que malheureusement, parfois, eh bien, ceux qui détruiront, c'est de notre propre sein qu'ils vont émerger. C'est bouleversant, mais c'est un texte dans les prophètes. Alors, évidemment, notre responsabilité à nous aujourd'hui, et je ne parle plus maintenant par rapport à ces personnes parce que c'est encore une autre problématique, mais peut-être que notre responsabilité en tant que parents, c'est justement de nous dire, voilà, nous avons l'obligation de donner à nos enfants la conscience de leur singularité, la conscience de leur dimension juive, mais n'attendons pas que ça passe à travers quelque chose de difficile, travaillons dans ce que j'appellerais en amont, c'est-à-dire... J'aime beaucoup citer le titre de cet ouvrage de Neher qui s'intitule « Le dur bonheur d'être juif ». Et peut-être qu'il faut d'abord faire émerger la dimension du bonheur, la dimension exceptionnelle de ce que veut dire faire partie du peuple d'Israël, cette singularité qui crée des responsabilités mais qui en même temps donne du sens à notre vie, cette singularité qui nous renvoie à cette proximité avec Dieu et qui nous permet de vivre un quotidien qui est peut-être, ou même pas peut-être, mais qui est différent de celui qui en effet ne voit pas dans sa vie quelque chose qui a une finalité mais qui se contente juste de la vivre et ça s'arrête là, de faire découvrir. Et vous savez, même de manière très simple au niveau purement pédagogique, lorsque l'on parle par exemple et que l'on fait découvrir à nos enfants ou à d'autres qui ne connaissent pas encore le Shabbat, eh bien malheureusement souvent on présente le Shabbat comme étant une somme d'interdits, alors que Shabbat c'est en premier lieu peut-être une réunion, c'est peut-être en premier lieu, et pas peut-être, c'est une réunion, c'est une table, c'est un échange, c'est des sourires, c'est des chants, c'est de la chaleur, c'est aussi se retrouver avec soi-même, se déconnecter un petit peu du monde pour mieux le retrouver par la suite, pour mieux se retrouver avec soi-même en premier lieu. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on devrait remettre, j'ai pas envie de dire au goût du jour, mais se rappeler qu'il faut d'abord faire émerger la beauté des choses, montrer en quoi elles sont exceptionnelles, même si par la suite on découvre qu'il y a en effet, ne serait-ce que dans les lois, eh bien un certain nombre d'obligations, mais dès lors que l'on a vu la beauté des choses, évidemment, c'est quelque chose de radicalement différent. Eh bien, c'est peut-être cela en effet que ce texte nous invite à faire. « Emor ve'amarta dit et tu diras le hazir gdoli malaktanim » que les adultes prennent garde à ce que les enfants entendent bien leur singularité, mais qu'ils la découvrent à travers une parole positive. Lorsque un parent Cohen dit à son enfant ce que veut dire être Cohen, il lui parle d'abord de la beauté du rôle qu'il doit jouer, du fait qu'il a cette chance extraordinaire d'être celui qui peut bénir les autres, d'être celui qui aurait une responsabilité au sein du Temple de Jérusalem, ce qui est quand même extraordinaire, et que évidemment ça crée un certain nombre d'obligations. Par ailleurs, il y a aussi ici donc une réflexion sur une démarche pédagogique qui doit d'abord montrer les belles choses pour par la suite nous montrer les obligations que cela crée. Voilà quelques points de réflexion en tout cas, et qui aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, ont une résonance particulière dans cette époque dans laquelle bon nombre de juifs découvrent ou redécouvrent ce que veut dire être juif à travers l'antisémitisme. Eh bien, faisons en telle sorte que cette découverte ne passe qu'à travers de belles expériences.
Rav Eli Lemel, je vous remercie et je vous souhaite Shabbat Shalom. On part pour Jérusalem, on le retrouve Rav Mordechai Bitton. Bonsoir Rav Mordechai à Jérusalem. Shabbat Shalom.
Shalom Aleichem, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Mevorach à toutes et à tous.
Rav Mordechai, si on veut diviser notre paracha en trois, on peut dire de manière très très schématique, ça parle des Kohen, des Kohanim, ensuite des fêtes et du Shabbat, et enfin ça nous raconte une histoire un peu particulière d'un homme qui, Chas v'Shalom, maudit Hachem. Et on peut définir ça comme une trame, puisque voilà, c'est le déroulé de notre paracha, et qu'est-ce que ça nous en prend sur qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait, notre paracha, si on la prend comme ça sur la trame.
Ah oui, absolument, parce que quand les sages de Bavel ont divisé la Torah en 54 parachas, ils ont compris que chaque paracha avait un certain nombre de trames, des trames souterraines. Là, par exemple, effectivement, vous l'avez dit schématiquement, les lois qui concernent les Kohanim, les fêtes et le Shabbat, et à la fin, un homme donc qui est mécontent d'un des décisions de Moshe Rabbeinu, de Moïse, et puis qui sort et qui maudit. Alors, la trame, elle est la suivante. Quand vous regardez les lois qui concernent les Kohanim, vous voyez que les Kohanim sont des gens qui vivaient dans le temple, et qui servaient Hachem, et qui étaient proches d'Hachem, et ils devaient organiser leur vie pour vivre dans la simcha, dans la joie, dans la sérénité. Ça allait jusque dans leur mariage. C'est-à-dire qu'un Kohen ne pouvait pas épouser une femme divorcée. Parce que reconstruire sa vie avec une femme divorcée, comme on le sait aujourd'hui, c'est un zivouk sheni, c'est un remariage. C'est jamais simple, un remariage. Alors le Kohen, on lui demandait de construire sa vie avec une femme, avec laquelle il démarrait dans la vie. Et donc une femme qui, et lui-même d'ailleurs, était quelqu'un qui avait cette fraîcheur, on va dire, dans la vie. Et puis toutes les lois qu'on va leur donner, au Kohanim, il faut pas qu'ils, pour qu'ils servent dans le Beth Amikdash, il ne faut pas qu'ils soient boiteux, il ne faut pas qu'ils soient malades, il ne faut pas qu'ils aient des handicaps, d'accord ? Donc d'une certaine manière, ils sont proches d'Hachem et ils vivent dans une certaine sérénité, une certaine joie. Les fêtes, tout le paragraphe des fêtes, c'est quoi les fêtes ? Les fêtes, c'est la sainteté de l'espace. En fait, les Kohanim, on nous parle de la sainteté de l'homme. L'homme, pour qu'il ait un rapport avec Hachem, pour qu'il soit dans ce qu'on appelle la sainteté dans la Torah, il faut qu'il soit dans une certaine sérénité, dans la Simcha. Ensuite, après, on a les fêtes et le Shabbat. Les fêtes et le Shabbat, les fêtes, c'est la sainteté de l'espace. Pourquoi ? Parce que le juif, il était à un certain endroit. Il quittait cet endroit pour aller dans le Beth Amikdash. Il quittait son endroit. Et qu'est-ce qu'il allait faire ? Il allait vivre dans la joie des retrouvailles avec Akadosh Baruch Hu. Il amenait des sacrifices. Et c'était 7 jours dans lesquels il vivait dans une communion, dans une vision de la relation avec Hachem, qui était entière, pleine, totale, et qui était surtout extrêmement stimulante et qui lui apportait énormément de joie. Et donc, en vérité, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici ? Quel est l'enseignement que nous, on retire de cette paracha ? Parce qu'en vérité, pour servir Hachem, on doit cultiver des éléments positifs de notre personnalité qui ont trait à la sérénité et à la joie. Maintenant, si vous voulez une clé, je vais vous la donner, parce que cette clé, elle nous a été donnée, puisque tous les matins, le juif, quand il se lève, dit « Modé Ani », reconnaissant je suis. Il ne dit pas « Ani, moi ». Je suis reconnaissant. Il dit reconnaissant je suis. C'est-à-dire que l'essence même du juif, c'est d'être reconnaissant. C'est de cultiver l'élément positif de sa personnalité qui est de reconnaître le bien qu'il y a dans sa vie. Rabbi Akiva disait, tout ce que Dieu fait, il le fait pour le bien. Et son maître, Gamzou Letova, Nahum Ish Gamzou, disait même ça, même ce qui en apparence nous fait vivre dans la souffrance, même ça aussi c'est pour le bien. Le juif est quelqu'un qui doit être capable d'être modé, d'être reconnaissant du bien dans lequel il vit. Il doit être capable de voir les éléments positifs de ses situations. Il doit être capable de voir la force qu'il peut tirer d'une situation. C'est quelqu'un qui ne peut pas se laisser aller au désespoir. Pourquoi ? Pour cultiver l'élément qui est l'élément de la sérénité et de la simcha. Maintenant, il y a un individu qui ne va pas réussir à ça. Et comment on en est arrivé à cet individu ? Alors, il a une maman qui s'appelait Shlomit Bat Divri. Elle dispute avec tout le monde. C'était une femme dont on nous dit, d'une certaine manière, Rachid dit, c'était une femme légère. Et donc, à un moment donné, elle va avoir une relation forcée. Elle va être violée par un Égyptien. Il va sortir un enfant. Et cet enfant, ben, il n'a pas de place. Si j'analyse l'histoire de cet enfant, dont la mère est de la tribu de Dan, et qui va demander à la tribu de Dan de l'accepter, les gens de Dan vont lui dire non, parce que on ne peut t'accepter sur notre campement que si ton père appartient à la tribu de Dan. Mais ton père à toi, c'est un Égyptien. Alors va demander à Moshe Rabbeinu, tu dois te mettre dans le camp des Béné Israël. Cet homme, il n'a pas de place. Mais il n'a pas de place parce que sa mère n'en avait pas, parce que son père n'en avait pas, parce que dans son histoire, il n'y a rien qui le prédispose à ça. Donc ici, qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah ? Elle vient nous alerter, elle vient nous dire, vous savez, vous les parents, quand vous vous comportez mal, vous les hommes, les femmes, quand vous faites n'importe quoi de votre vie, ben vous devez gérer après. Et vous devez gérer parfois des situations qui sont inextricables. Alors sachez qu'il y a une recette, c'est de construire sa vie a priori, de manière stable et de manière sereine. Maintenant, si ça n'est pas le cas, ben, il faut chercher à retomber sur ses pieds. Alors vous allez me dire, mais ce pauvre homme-là, ici, finalement, il est un peu victime de ce que sa mère a subi, de ce qui s'est passé. Mais dans l'histoire du peuple juif, à cette même génération, le Midrash nous dit que Josué, l'élève de Moshe Rabbeinu, faisait partie des bourreaux de Pharaon. Et qu'à un moment donné, il a même tué son père. Et que sa mère va le reconnaître. Et qu'il va choisir de s'enfuir. Dites-moi, cet homme qui a vécu dans un bain de sang, proche de dictateurs sanguinaires, il aurait pu devenir une brute, il aurait pu devenir un type désaxé, il aurait pu devenir quelqu'un de fou. Or, il va devenir Josué, l'élève de Moshe Rabbeinu, et il va être le transmetteur de la Torah. Moshe Kibal Torah Mussinaï, Moshe a reçu la Torah, il l'a transmis à Josué, qu'il a transmis aux anciens. Qu'est-ce qu'on vient nous dire ici ? En vérité, dans la vie, on subit, c'est vrai, des situations, mais la manière dont on va les vivre et ce qu'on va en faire et tout ce qu'on peut essayer de surmonter dans ces situations, ça c'est notre choix. Ben, c'est le filigrane de cette paracha. Il y a une recette a priori, c'est cultiver les éléments positifs de la personnalité, cultiver les éléments positifs du temps dans lequel on vit. Mais si on s'est retrouvé dans une situation inextricable, alors il va falloir aller puiser dans les ressources que la Torah nous donne et que le peuple juif nous donne pour faire des bonnes rencontres et rencontrer des gens qui pourront nous aider à retomber sur nos pieds. C'est le filigrane de la paracha. La simcha, la joie, la sérénité, la reconnaissance. Et lorsqu'on est dans le désordre, eh ben, tout faire pour essayer de rencontrer des gens qui vont nous aider à en sortir, ne jamais se laisser aller au désespoir et ne jamais subir une situation. Comprendre que la situation dans laquelle Hachem nous a mis, c'est une situation qui est le mot m'échappe, un Edgar, un défi. C'est un défi pour nous, un défi à relever. Et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, là, cette parachelle s'applique complètement. Combien de gens aujourd'hui sont malheureux? Combien de gens aujourd'hui ont vécu dans des familles déchirées, éclatées, complètement atomisées? Combien de gens aujourd'hui sont jetés sur les routes de l'exil, si je puis dire, d'accord? L'exil psychique, mental, spirituel. Mais aujourd'hui, il y a des gens pour les aider. Il y a des mains tendues. Il y a des possibilités de s'en sortir. Et combien de fois on entend les gens dire « Non, moi, je peux pas. Non, moi, non, moi. » Il n'y a pas de non. C'est pas vrai. Il y a des milliers de gens pour t'aider. Il y a des milliers de gens qui te tendent la main. Si tu veux les prendre, et si tu veux essayer d'explorer ton histoire, tu peux t'en sortir. C'est un cadeau qu'Hachem a fait dans cette génération complètement en désordre et en pétard, d'avoir mis des tzadikim, d'avoir mis tellement de gens qui étudient la Torah, tellement de gens qui sont disposés à tendre, à prendre la main d'une personne qui souffre, à aider. Et c'est le filigrane de la paracha. C'est le filigrane de la paracha. Je propose à chacun d'y réfléchir. Il y a un magnifique cours de Rav Shapira que j'ai ici sous les yeux et qui, sur 40 pages, donne un déroulé plus en détail, évidemment, sur le sujet. Mais c'est autour de ça que je pense qu'il faut savoir réfléchir. Voilà. Shabbat shalom à toutes et à tous.
Mettre de l'ordre dans ses pensées, c'est ce que vous nous proposez pour ce soir. Avec un peu de sérénité, c'est sûr que ça ne fait pas de mal dans ce monde qui est tellement chaotique et où le retournement de tout. On a vu encore cette fois cette semaine le mémorial de la Shoah qui a été profané. Donc, essayez de mettre un peu de l'ordre.
Vous savez, si aujourd'hui on suit l'actualité sans le bon Dieu, effectivement, on peut devenir fou. Mais et nous, les Juifs, il se trouve qu'on a, on a des prophètes qui ont parlé, on a des tzadikim qui ont parlé, on a des textes qui ont parlé de la situation qu'on vit aujourd'hui. Ça n'est pas si désordonné que ça. On vit ici quelque chose qui est parfaitement expliqué par nos textes. Simplement, on le vit dans le désordre et dans l'incertitude, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le Mashiach va venir, on ne sait pas ce que le lendemain nous réserve. Mais ça n'empêche que on a Hachem, il est dans notre vie, on a la Emouna, on a la foi, on a le Bitachon, et on a en même temps des choses à faire. Donc, je propose à chacun aussi, en parallèle de l'actualité aussi, de se pencher un petit peu sur nos textes pour mettre un petit peu d'ordre.
Allez, on va le faire. On va souhaiter un beau Shabbat de sérénité, une belle soirée déjà pour tout le monde dans ses familles, chez soi.
Amen, amen. Amen. Et tu HM protège son peuple et tu HM nous donne la force de surmonter ces épreuves et nous aide à y voir clair dans ce désordre.
Amen. Shabbat shalom, Rav Mordechai à Jérusalem. Bonsoir à vous, Rav Mordechai Bitton. Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gay. Bonsoir Rav Gay, Shabbat shalom.
Bonsoir et Shabbat shalom.
Rav Gay, dans notre paracha, on parle des fêtes. Et pour les appeler, pour les nommer, on dit que c'est des moadim, des rendez-vous. C'est un mot extrêmement... D'abord, c'est surprenant, mais c'est difficile à comprendre. Pourquoi est-ce qu'une fête, c'est un rendez-vous, Rav Gay?
Très bien, bravo. C'est effectivement un sujet sur lequel je pense qu'il faut un peu s'arrêter. D'abord parce qu'il faut rappeler ce qui se passait pendant les fêtes. On appelle ça les chaloches régalim. Les régalim, ça veut dire en fait les pieds. Donc c'est un pèlerinage qu'on faisait chaque fois pour se rendre à Jérusalem. Que se passait-il pendant les fêtes? Ben, les Juifs se retrouvaient au Beth Amikdash en apportant beaucoup de sacrifices. Ils avaient le privilège de voir les deux chérubins enlacés. Donc je vous rappelle qu'on ne peut pas rentrer dans le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, mais qu'il y avait des portes en enfilade. Donc on pouvait passer dans une porte et en voir jusque dans le Saint des Saints, voir les deux chérubins enlacés au loin. Et c'était un moment très particulier, vous imaginez bien, ça voulait dire que Dieu, il aime son peuple. Donc Moed, c'est Veïda. Veïda en hébreu aujourd'hui moderne, ça veut dire réunion. Se réunir, se voir, et la mitzvah de Reïa, c'est-à-dire de se voir, d'être vu. Évidemment, c'était un grand moment de rendez-vous, un poumon spirituel pour toute l'année. Parce qu'en plus, à Jérusalem, il y avait beaucoup d'enseignants, de Talmidei Chachamim, il y avait le Sanhedrin. Le grand Sanhedrin, il y avait des Kohanim et des Lévi'im qui ne travaillaient pas, qui ne s'adonnaient à l'étude et à l'enseignement de la Torah. Donc c'était un grand moment de rendez-vous entre Hachem et son peuple. Et ce que je voulais ici, c'est rappeler le Maharal de Prague, dans le chapitre 46 de Netzach Israël. Il nous dit que, en fait, le Shabbat, on sait tous, c'était Me'en Olam Haba, c'est-à-dire quelque chose qui préfigure le Olam Haba, le monde à venir, ce monde-ci est destiné à disparaître à un certain stade, et un autre monde sera reconstruit. Et avant cette disparition de ce monde, il y aura ce qu'on appelle Yemot HaMashiach, la période messianique. La période messianique n'est pas comme les gens pensent, simplement un moment où on n'aura plus de soucis, c'est sûr, on n'aura plus de soucis, ça sera magnifique, mais c'est un moment surtout où on pourra accomplir toutes les mitzvot de la Torah parfaitement, sans restriction, toutes les mitzvot dans la quiétude, dans la sérénité. Et Hachem veut nous donner la possibilité d'y arriver, en nous demandant de justement les fêtes préfigurent cette période qu'on appelle l'époque messianique. Mais l'époque messianique, c'est pas la finalité de l'histoire. La finalité de l'histoire, c'est Olam Haba, le monde à venir, le monde qui en fait n'existe pas aujourd'hui. Là, on est Olam Hazé, on est dans ce monde-ci qui va disparaître, il va être laissé la place à un monde à venir qui sera beaucoup plus spirituel. Mais avant d'y arriver, il faudra passer par la période messianique où nous accomplirons toutes les lois de la Torah dans les moindres détails et d'une façon parfaite. Mais pour y arriver, il faut se préparer. Il faut se préparer, c'est-à-dire qu'il faut avoir eu le mérite pendant toute la période que nous vivons en ce moment, avec toutes les difficultés, les soucis les dangers divers et variés, de se mettre au boulot et effectivement d'affronter toutes les difficultés intérieures, parce qu'avec notre Yitara, mauvais penchant, puis extérieures avec le Hamas et malheureusement des terroristes de toutes sortes, des pressions internationales, etc. Donc, toutes ces difficultés qui nous empêchent un petit peu de faire notre judaïsme comme on le voudrait, eh bien, si quelqu'un s'est battu dans ce monde obscur, eh bien, il aura le droit de venir à l'époque messianique et de pouvoir le faire d'une façon, on va dire, facile, mais en même temps, de pouvoir faire les choses parfaitement, pour pouvoir après, troisième étape, rentrer dans le monde futur et bien jouir, comme le dit le texte, de la splendeur divine. Et donc, on trouve quelque chose de très intéressant dans les lois des fêtes, qui est ce qu'on appelle Eruv Tavshilin. Eruv Tavshilin, c'est lorsque Yom Tov tombe veille de Shabbat, eh bien, on fait ce qu'on appelle un Eruv Tavshilin, on prépare des plats avant l'entrée de la fête, et grâce à ces plats préparés, on va pouvoir préparer depuis Yom Tov pour Shabbat. Sinon, c'est interdit de préparer de Yom Tov pour Shabbat. Et là, le Maharal dit quelque chose de magnifique, il dit en fait, Eruv Tavshilin, c'est pour rappeler que lorsque un homme a préparé avant la période messianique, il s'est battu avec lui-même et avec des fois des difficultés externes et qu'il a montré sa fidélité à Hachem malgré les difficultés, eh bien il aura le droit de rentrer dans la période messianique et qui en fait préfigure la fin des temps et qui préfigure surtout et que dont les Yomim Tovim sont un peu le paradigme,
c'est l'avant-goût
effectivement, ce que vous recherchez, pour après rentrer dans le Olam Haba qui est paraît par Shabbat. Et donc c'est intéressant parce que justement les fêtes c'est quoi ? Les fêtes c'est justement cette vision de Dieu, cette proximité avec Hachem que nous ressentons aussi aujourd'hui parce qu'on ne travaille pas, on peut quand même en même temps cuisiner et porter, mais on ne travaille pas, donc on est vraiment dans une période de joie, on se sent bien, on se sent porté par l'évocation de Pessah, donc il est sorti d'Égypte, ou le don de la Torah, ou Sukkot, les Kabbats, etc. Tout ça ce sont des moments privilégiés, et où on sent qu'on fait des mitzvot, et on fait des mitzvot dans la joie et dans la sérénité, et puis après, le Shabbat, chaque semaine, c'est mené dans le rabat, c'est une autre dimension, une dimension encore plus spirituelle, encore plus forte, et effectivement, les fêtes sont là pour nous amener au vrai Shabbat, au Shabbat définitif et éternel, et pour cela, il faut comprendre que les chagim sont des moments de rencontre avec Hachem et aussi avec nos frères, puisqu'on se retrouve tous à Jérusalem, on imagine tout le peuple juif à Jérusalem, on se demande comment ça va fonctionner, ben, ça a fonctionné très bien, de façon un peu miraculeuse, mais tout le monde trouvait sa place, tout le monde arrivait à s'installer, et c'était des très très grands moments. En fait, la paracha des morts, est une paracha où on pourrait donner comme sous-titre la Kedusha. On parle de la Kedusha du Kohen, avec plusieurs halakhot concernant le Kohen, la mitzvah de Kiddush Hashem, de sanctifier le nom de Dieu, de ne pas profaner le nom d'Hashem, l'Otechalelu, et Shem Kodshi, et puis la fête, on parle des fêtes, donc la Kedushat Hazman, la sanctification du temps, à la fin on parle du blasphème, donc celui qui va au contraire aller à l'encontre de Kiddush Hashem, donc une paracha qui est entièrement consacrée à la Kedusha, dont la Kedusha du temps est pour nous quelque chose de très important, puisque nous vivons là en ce moment l'Omer, nous passons de Pessah à Shavuot, nous comptons l'Omer pour essayer d'arriver justement à ce grand moment qui est Shavuot, le Kabbalat HaTorah, l'acceptation de la Torah, les Luchot, tout cela c'est l'année juive et ces grands rendez-vous avec cette force spirituelle que ça nous donne encore aujourd'hui, mais qu'on espère est très fort. La reconstruction du Beth Amikdash en cette période-là, et c'est ce qu'on prie à Moussaf toujours, qu'Hachem nous donne la chance de retrouver le Beth Amikdash. Pourquoi ? Parce que le Beth Amikdash, c'est la possibilité de voir, d'être vu, mais aussi de voir, d'observer Hachem, de voir sa proximité, de son amour pour son peuple. Et je pense que c'est ça l'enseignement que je voudrais nous donner à tous, c'est que c'est cet espoir, cette attente de Parashat Emor, de nous dire qu'on va retrouver la possibilité d'apporter des sacrifices, de se retrouver au Beth Amikdash. Tout ça pour pouvoir, dans Hachem, très très bientôt, vivre cette période messianique. On en a tellement besoin, on voit tous les malheurs qui nous depuis quelques mois, donc ça nous pousse encore un peu plus à nous dire qu'on en a un peu plus, qu'il faut passer à autre chose et qu'il faut vraiment prier très fort pour la venue du Machiav. Mais le Machiav, encore une fois, c'est pas régler les problèmes géopolitiques généraux, c'est nous donner aussi la possibilité d'être des juifs à part entière, totalement, jusqu'au bout des ongles, sans la moindre hésitation, sans problème, et pouvoir servir Hachem dans la joie, et sans souci, et dans la sérénité. Tout ça, c'est vraiment notre objectif. Le premier, comme le dit le Rambam dans le chapitre 9, les Ilchot Teshuvah, tout ce que nous aspirons dans la période messianique, c'est justement cette proximité avec Hachem, ressentir cet amour d'Hachem, et laisser derrière nous toutes les horreurs que nous connaissons malheureusement trop bien, et prier pour que les otages reviennent, et que les soldats soient protégés, soient guéris lorsqu'ils ont été blessés, etc. etc.
Amen. Il y a un père qui a perdu son fils pendant la guerre et qui a dit le cercueil c'est un Aaron, c'est un...
Oui, ça s'appelle Aaron, ouais, le cercueil. Ouais.
Et il a dit, et nous qui nous penchons dessus, les uns les autres, on est les chérubins, parce qu'on se penche et cette union dans la douleur. Mais si je puis me permettre, Rav, est-ce que vous pensez pouvoir répondre à la question suivante ? Aujourd'hui, aujourd'hui, donc vous avez dit les chérubins, on connaît, ils s'embrassent quand Dieu est content de son peuple, exactement. Et ils sont séparés quand il n'est pas content. Mais aujourd'hui, dans cette souffrance, d'après vous, les chérubins, ils seraient comment ? Ils seraient en train de s'embrasser ou ils seraient séparés parce qu'il y a une grosse colère ?
Je vais vous répondre. Il y a une Gemara qui répond à votre question. Lorsque les Romains sont rentrés dans le Saint des Saints le jour de Tisha B'Av, avant de mettre le feu, ils ont vu les chérubins enlacés. Wow. Alors tous les commentateurs s'étonnent, mais c'est bizarre. Si c'est le jour de la destruction du Temple, c'est le jour où Dieu est le plus en colère contre son peuple. La réponse, en fait, c'est non. Le jour de Tisha B'Av, c'est le jour où Hachem est le plus proche de nous. Et en fait, nous voyons la sanction comme étant quelque chose de terrible et de vivant. C'est terrible, c'est très dur à supporter. Mais en fait, Hachem nous dit, voilà, ça y est, si je suis dans cette situation de sanction, c'est qu'en fait, Hakadosh Baruch Hu, lorsqu'il a détruit le Beth Amikdash, il a voulu éviter de détruire son peuple. Donc il a détruit le Beth Amikdash pour éviter quelque chose de pire encore. Et on appelle déverser sa colère sur les pierres et sur le bois, c'est-à-dire sur du matériel pour éviter de détruire son peuple. Et bien nous, aujourd'hui, on doit dire la chose suivante. Chaque Ben Israël qui disparaît, des gens tellement extraordinaires qui disparaissent, eh bien, ils sont là pour protéger tout le peuple juif, faire en sorte que ces événements qui sont tragiques soient très rapidement derrière nous pour essayer de préparer une rédemption. Et c'est dur, à ressentir aujourd'hui, évidemment. Mais je pense que, malgré votre ressenti a priori, c'est que Hachem est en colère et donc les chérubins se sont détournés les uns des autres, je pense que, en fait, Hachem, au contraire, les chérubins s'enlacent et Hachem nous dit, voilà, je détruis pour reconstruire. Je fais quelque chose de terrible, une sorte d'opération chirurgicale, mais dans le but de guérir. Et j'espère que c'est ce que nous verrons bientôt, beaucoup, beaucoup de très, d'excellentes nouvelles.
Amen. Rav Guy, je vous remercie et je vous dis Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci d'y avoir prêté attention. Vous le savez, on a coutume dans nos communautés de lire les Pirkei Avot jusqu'à la fête de Shavuot et les éditions Lishma nous offrent un livre de Pirkei Avot, un très beau livre français et hébreu toutes les semaines. Et pour ça, il faut faire une petite tombola qu'on fait entre nous très amicalement. On dit le troisième appel. Il va gagner ce livre des Pirkei Avot des éditions Lishma. Troisième appel, on l'a pris au hasard. Je vous retrouve dans un instant pour le journal de 18h qui est enregistré. À tout à l'heure.
שחם לי בוי נבוי, אם השם לא ישמרי, שחשוק עד שוי בי.